Ce podcast vous est proposé par Lifeproof, concepteur de coques prêt à affronter toutes les situations et qui vous permettent de vivre à fond chaque instant. Que cela soit défier les vagues ou vivre des aventures, les coques Lifeproof protègent l'un de vos outils les plus précieux, votre téléphone. Que vous optiez pour l'étanchéité à l'eau avec Free, la polyvalence avec Next ou la simplicité avec Slam, les coques Lifeproof vous permettent de faire ce que vous voulez sans hésiter. Pour commencer à vivre à fond, rendez-vous sur lifeproof.fr/lifeproof15 et économisez 15% sur votre coque Lifeproof.
RMC.
After Saint-Étienne.
Le podcast
Gilbert Bribois.
Chers supporters de Sylvain Castandutch et de Mohamed Chaouche, bienvenue dans le podcast After Saint-Étienne. Comme toutes les semaines, 15 minutes de débat consacré à l'actu des Verts. Avec aujourd'hui Daniel Riolo. Daniel, bonjour.
Ami Stéphanois, bonsoir.
Et nous avons avec nous un vrai Stéphanois, qui d'ailleurs est sur zone, comme toujours, avec son site de référence peuple-vert.fr. C'est Joss Randall. Salut Joss.
Bonsoir, Gilbert, bonsoir Daniel. Et Mohamed Chaouche, ça me rappelle vraiment mon enfance.
Ah, Mohamed Chaouche.
Ah ben, puisque tu parles d'enfance, j'allais te poser la question, en tant que, je vais t'appeler maître des supporters stéphanois. Est-ce que quand on a été supporter de Saint-Étienne entre 5 et 10 ans, ça vaut quelque chose ?
C'est quoi la question ? Est-ce que ça vaut quelque chose aujourd'hui d'avoir
est-ce
été supporter
des Verts, entre 5 et 10 ans ? Est-ce qu'aux yeux du peuple vert, je vaux quelque chose, moi, puisque j'étais supporter de Saint-Étienne entre l'âge de 5 ans et de 10 ans à peu près ?
Bah oui, évidemment.
Quand j'avais les posters dans la chambre, ça vaut un peu ?
Ah bah oui, enfin pour moi ça vaut en tout cas. Après, il faudra poser la question.
Si le premier joueur que j'ai imité dans ma rue, c'est Jean-Michel Larquet.
Ah bah ça vaut pour Jean-Michel Larquet déjà, il doit être content. Oui, tout ce qui va toucher à l'histoire, on a le droit d'être supporter.
Ah bah donc les supporters de Saint-Étienne peuvent me respecter un petit peu.
Le fait que Daniel soit ensuite, à partir de 10 ans, devenu supporter de l'OM, est-ce que aux yeux des supporters des Verts, ça peut avoir une importance?
Bah, c'est moins grave que s'il était devenu supporter de l'OL, en fait. Mais bon.
Ah bah à l'époque, Lyon était en D2.
Ouais, on lui pardonnera. On n'a pas bien le choix.
Bon, messieurs, évidemment, pas d'évaluation cette semaine, pas de match, mais des débats. Débats autour de la gestion des semaines qui viennent, parce que Saint-Etienne donc, est très bien revenu en championnat, quatrième, évidemment, égalité de points avec Angers qui est troisième. Mais il y a aussi la Coupe d'Europe, donc qu'est-ce qu'on fait ? Parce qu'on sait que l'effectif n'est pas extensible, que même parfois en faisant tourner...
Bah quoi ? Il y a une tonne de joueurs dans cet effectif.
Attends, on va y venir.
Pas extensible.
Avec tout ce qui se passe. Bon, en tout cas, on va en débattre dans quelques instants. Et puis, autre dossier important, le cas Loïc Perrin, idole évidemment à Saint-Étienne, incarnation totale du club. Sauf que bon, bah, il est clairement sur la pente descendante. Qu'est-ce qu'on fait ? On va se poser la question tout de suite dans le podcast After Saint-Étienne. Alors, faisons le point. Coupe d'Europe, finalement, c'est une sorte de 64e et de 32e avant d'arriver en 16e, hein, en quelque sorte, parce qu'il faut gagner les deux matchs. Et ce n'est pas évident, puisque donc c'est la Gantoise et Wolfsburg. Championnat, voilà le planning des Verts d'ici Noël. Un peu de Coupe de la Ligue quand même en passant. Enfin, comment gérer ça maintenant ? Joss, qu'est-ce qui se dit à Saint-Étienne et comment est-ce que tu vois l'affaire ?
Alors, comment je le vois et ce qui se dit, il va forcément y avoir une nuance. Bon, tout le monde est pris dans la vague d'optimisme suite à l'arrivée de Claude Puel, donc tout le monde se dit pourquoi pas en Coupe d'Europe. Je pense que ça sera extrêmement compliqué. Après,
moi j'y crois pas.
Moi, je suis supporter de l'ASS, donc j'ai quand même envie d'y croire, parce que sinon on perd tout romantisme. Mais après, avec un peu d'objectivité, ça sera quand même extrêmement compliqué. La vraie question, c'est pas tant comment je le vois moi, mais comment Claude Puel le voit. Et là, j'avoue que j'ai une interrogation. C'est-à-dire que je pense qu'on est un peu à la frontière entre pragmatisme et ambition.
Il va te dire, non, va jouer tous les matchs à fond, on est là pour
gagner.
Oui,
alors après, derrière le discours de façade, après le piteux match Alexandria, disant on n'est pas mort, on est encore en vie, il y a deux finales, je crois que se cache un Claude Puel plus pragmatique que ça et qui doit être en train de se dire, de toute façon, je vais devoir dégraisser mon effectif parce qu'il y a trop de joueurs moyens dans cet effectif-là, parce que c'est la frange moyenne qui veut évacuer, et Diony, et Lacroix et compagnie, que j'aurais pas de toute façon la qualité.
Ah ouais, je croyais qu'il était parti.
Il est encore là, Lacroix, ouais. Il joue en National 2, ouais. Et c'est loin d'être la meilleure. Et qu'il se dit, bon, le bilan cette année, j'ai plutôt intérêt à me focus sur On continue à avoir des bons résultats comme ça. La Ligue 1 est très indécise, c'est un peu moyen-âge global. Donc si on arrive à continuer sur ce rythme-là, on terminera top 6, donc potentiellement des places européennes. Et je peux me faire un deal l'année prochaine avec un effectif que je vais choisir, que je vais façonner, avec un projet de jeu qui sera à moi, pour jouer l'Europa League à nouveau à ma façon.
Ça, c'est quand même la schizophrénie du football. C'est-à-dire, en gros, ce que tu es en train de nous dire, c'est je fais une croix sur l'Europa League cette année pour essayer de la rejouer l'année prochaine. Tout en n'étant pas sûr d'y arriver.
Ça, Gilbert.
Ça fait 20 ans qu'on entend les mêmes conneries dans le foot français. Ça fait 20 ans que j'entends ça. Les mecs, ils construisent, ils déconstruisent, ils reconstruisent. Il faut qu'on se qualifie pour la Coupe d'Europe, mais quand on y va, on fait rien. C'est tellement...
Alors, je pense que c'est pas aussi binaire que ça. C'est-à-dire que les deux matchs qui arrivent, à les jouer. Je dis juste que... Et c'est une interrogation, c'est pas du tout une affirmation. Je dis juste que si, pour le match face à la Gantoise, il a un doute sur un ou deux ou trois titulaires qui sont un peu borderline... Avec les 9 matchs qu'il a joué en 27 jours, là, je ne suis pas sûr qu'il prendra le risque. Voilà, c'est ça que je veux dire.
Bah après, je suis convaincu qu'il va faire une croix sur l'Europa League, pas consciemment ni ouvertement, mais dans les choix. Et là, maintenant, c'est après, le championnat, la situation est redressée, c'est finir le plus haut possible. Et la Coupe d'Europe, de toute façon, il se dit, même si on sort, qu'est-ce qu'on va aller faire? Un 16e de finale tout moisi. De toute façon, on perd, on ira nulle part. Donc, faire un ou deux tours de plus, à quoi bon? Et évidemment, on va faire comme d'habitude, on va balancer.
D'autant que... Vas-y, après, je parlerai du calendrier. Vas-y, Joss.
Juste pour terminer sur mon avis à moi, sans faire...
Bien sûr, qui nous intéresse.
Sans faire l'offense à une émission de cette qualité... en balançant des pontifs de type Oscar Wildien, il faut tout viser la lune et compagnie, je pense, moi, personnellement, mais c'est mon avis, que le haut attire le haut, c'est-à-dire que plus tu runs tes ambitions à la baisse, plus tu as des chances d'atterrir plus bas que ces ambitions à la baisse. Donc je pense qu'il devrait essayer de tout jouer à fond. Après, il me semble que c'est un garçon...
Je ne suis pas sûr les joueurs ont été préparés dans...
Je ne suis pas sûr que lui-même le soit, en fait.
Dans la préparation athlétique et tout, pour faire la série de matchs dont tu viens de parler, les 9 en 30 jours, ou 31, et que les mecs soient capables de jouer 2 matchs par semaine à haut niveau. Après, les adversaires ne sont quand même pas redoutables dans la poule, donc ça ne semble pas la mer à boire d'aller faire deux victoires sur les 2 matchs qui restent en Europa League. Alors,
la plus compliquée, c'est à Wolfsburg, quand même.
Oui,
à
enfin, alors, quand t'arrives pas à battre Alexandrie à chez
oui,
toi...
Oui, t'as raison. Les 2 matchs, en plus, je dis une connerie.
En plus,
parce que
regarde, c'est pour ça que je voulais parler de calendrier.
En fait, tu vois pas comment ils peuvent...
La Gantoise à Geoffroy Guichard, c'est jouable. Wolfsburg,
j'ai pas en main. T'as raison, sur le coup, ce match-là m'a échappé.
3 jours après Wolfsburg, il y a Saint-Etienne-PSG.
Ouais.
Donc là, faut pas t'attendre à ce que Puel, il mette ses meilleurs mecs contre Wolfsburg 3 jours avant Saint-Etienne-PSG.
Qu'est-ce qu'il attend de Saint-Etienne-PSG, de toute façon?
À moins qu'il fasse une Villas-Boas.
Le PSG, ils n'ont pas l'habitude de perdre à l'extérieur ces temps-ci, là.
Ouais.
PSG, ils ont perdu à Dijon, ils peuvent perdre à Saint-Etienne.
Moi, je veux dire, en fait, le truc, c'est que plus globalement, je ne sais pas ce que sont les envies et les ambitions des clubs, de la plupart des clubs en France. Là, Puel a repris en route, il a remis une machine qui était bien esquintée sur les rails. Ça avance correctement, même au-delà des espérances au vu du crash initial, 4e. Ah, je sais pas. Sortir de l'Europa League, oui, pourquoi? Maintenir la position dans le top 5, oui, pourquoi? Voilà. Qu'est-ce qu'il y a derrière de solide? Quels sont les
enjeux? Daniel, tous les clubs européens, évidemment. Si tout le monde se dit, de toute façon, l'Europa League, je peux rien y faire, je veux dire, sur les 126 clubs du début, il y en a 4 qui veulent jouer à fond, alors. Hein, tu vois?
Pour vous donner un peu une sorte de température ici autour de ça, là, je parle vraiment d'impression locale. Tout le monde, évidemment, est très optimiste parce que Puel vient de faire un truc qui porte à l'optimisme. Mais tout le monde se dit aussi, ce qui est bien, c'est qu'en plus, c'est un mec qui s'inscrit sur la durée parce qu'il l'a dit, il est au directoire, etc. Donc tout le monde aussi se projette un peu en disant, bon, ça va être bien, mais ça va être bien encore mieux l'année prochaine et encore mieux l'année d'après. Moi, j'y vois juste un danger, c'est que d'abord, Puel, aujourd'hui, il dit qu'il est là pour 3 ans ou 4, ou j'en sais rien, et que tout le monde connaît le monde du foot. S'il a une énorme propale de Monaco l'année prochaine, il va réfléchir. Et que moi, je préférerais qu'on commence à en tirer bénéfice dès cette année, quoi. De pas, en fait, procrastiner à la saison prochaine trop souvent. Donc j'espère qu'il fera pas trop d'impasse. Voilà.
À suivre, évidemment, parce que le planning stéphanois est serré. Bon, moi, je, effectivement, la Coupe d'Europe, moi, j'y crois pas trop. Hein. Je suis comme Daniel, surtout Wolfsburg. J'ai du mal à envisager une victoire là-bas. Ce serait, dans l'état actuel de Saint-Étienne en Coupe d'Europe qu'on voit, une sorte d'exploit. Mais parlons d'un autre sujet.
D'un autre côté, ouais. Gilbert, juste pour terminer, ça serait peut-être un exploit, mais imaginons qu'ils arrivent à le faire. Et même si derrière, tu tombes sur un os en 16e, que tu joues quand même le truc à fond, mais que tu te fasses sortir. Pour la saison en cours, ça pourrait être quand même des actes fondateurs. Hein. Aller gagner à Wolfsburg, en termes de morale générale, en termes de confiance de l'équipe, ça resterait quand même un gros coup.
Oui, et puis le foot français dira bravo à Saint-Étienne.
Et puis ça ferait des points pour l'UEFA. Oui.
Comme dirait Giroud. Sujet suivant, Loïc Perrin. Alors, évidemment, tout le monde connaît Loïc Perrin. C'est pas le gars qui va aller donner une interview dans la presse locale en disant « Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? J'ai plus ma place. Respectez-moi. » Évidemment, tout le monde a vu ses matchs, y compris quand il était sur le banc, c'est-à-dire ses non-matchs. Que faut-il faire maintenant avec lui ? Est-ce que il faut à un moment couper dans le vif ? Ou est-ce que lui doit prendre l'initiative aussi ? Est-ce que lui doit bien, il est tout à fait lucide, sans doute, sur ce qui se passe et sur ses capacités du moment ? Que faut-il faire ? Quel est votre avis, Daniel et Joss, sur... l'emblème ultime des Verts, Loïc Perrin.
Bah, en fait, le constat, effectivement, tout le monde l'a fait. Ça commence à se voir beaucoup, là, cette année. Mmh. Mais ce n'est pas nouveau non plus. La pente descendante, elle est commencée depuis deux saisons, quasiment. Maintenant, il y a eu... l'année dernière, il y avait encore les fervents défenseurs de l'icône Perrin qui disaient « Non, mais pas question, il fait partie du club, etc. » On entend quand même de moins en moins ce que tout le monde voit. Moi, je pense qu'il faudrait programmer une sortie par le haut pour ce garçon, parce qu'il le mérite. Il ne s'agit pas non plus de lofter ou quoi que ce soit. Donc ça,
le lofter, proportion... c'est pas mal comme verbe, ça.
Ouais. Toute chose n'étant pas égale par ailleurs, si j'ai entendu qui, je sais plus qui faisait le comparatif avec Cristiano Ronaldo, je pense que c'est un garçon, il faut le faire participer à ça, c'est-à-dire lui
c'est-à-dire le comparatif avec Cristiano Ronaldo, à quel niveau
préparer, voilà.
Attends, mais maintenant, c'est quoi ce comparatif avec Cristiano là?
Bah, je sais plus qui l'a fait, c'est chez vous lors d'un after ou lors d'une autre émission, je me souviens plus. Oh. Bon, c'est un peu gonflé comme parallèle, mais l'idée c'était.
Oui, j'ai un peu du mal à voir.
Je comprends pas trop.
Ouais. Non, mais, bon, bref, c'est pas grave.
Non, mais si, je vous ai expliqué, vous allez voir. C'est juste que, en gros, l'intervenant, je me souviens plus qui c'est, si c'est pas Manu Petit ou Willy Sagnol, qui disait que, un peu comme Zidane avait fait avec Cristiano.
C'est-à-dire le gérer
spécifiquement. Ça marche mieux que ce que fait Starry à la Juve.
C'est pas le même poste, donc, enfin bon, pour moi, c'est aberrant.
Non, c'est pas du tout le même tempérament. Mais je pense que ça marchera mieux si Puel commence à discuter de la situation avec Perrin en disant, voilà, aujourd'hui, tu vois.
Non,
bien
mais est-ce que Perrin, c'est quelqu'un qui s'accroche d'abord d'un point de vue... La grande différence, c'est que Perrin, moi j'ai le sentiment que... Bon, d'abord, Puel va le mettre dans la concurrence claire nette et s'il est moins bon, il ne jouera pas. Mais Perrin, ce n'est pas le genre à se révolter. C'est un gars qui va accepter la situation. Tu vois, si on prend des cas, tu viens de citer Cristiano, après c'est des mecs d'une toute autre dimension par rapport à ce qu'ils ont fait et leur ego
est surdimensionné. Non mais un cas stéphanois, prends le cas de Cazeri. Cazeri, s'il fait 4 pales sur le banc, qu'est-ce qui va se passer?
Non mais Cazeri, à la limite, à Saint-Étienne, tout le monde s'en fout, ce n'est pas Loïc Perrin. Ça n'a rien à voir.
Non, c'est
mais tu vois, c'est pas dans les cas des mecs un peu formés au club et emblématiques. Toi, je me souviens du cas, par exemple, à la Roma de Totti, quand tous les supporters ont commencé à sortir les banderoles, nos Totti, nos partis, en mettant une pression terrible sur les entraîneurs qui sont succédés, en disant il n'y en a pas un qui touche à ce mec-là. Et lui, en plus, si jamais un mec le mettait sur le banc, il foutait le bordel. Parce qu'il voulait y être. Et ça a été le cas de d'autres joueurs dans ce genre de situation. Perrin, lui. J'ai le sentiment qu'il n'a pas un ego surdimensionné, que parce que son rôle ne l'a pas non plus mis en avant, tu vois, quand tu es défenseur comme ça, et puis Saint-Etienne n'a pas, il n'a pas été dans un Saint-Etienne qui a gagné des choses, qui a, tu vois, il n'a pas été starisé, donc il n'y a pas eu de motif pour que son orgueil soit gonflé. Donc en fait, même si ça fait mal au cœur, j'ai l'impression qu'on va le mettre vers la porte de sortie, tout doucement, que... Évidemment, ça fera un petit peu mal au cœur des supporters, que lui, ça le blessera, mais que probablement, on lui promettra une place au club et une reconversion qui doit déjà, d'ailleurs, être pensée, et que je ne suis même pas sûr que ça fera débat.
Alors sa reconvention, elle est complètement pensée. Après, on ne sait pas ce qu'elle va devenir avec le nouvel organigramme et la présence de tuyaux et puis elle au directoire.
Ils lui trouveront quelque chose, mais je ne pense pas que ça fera de vagues en fait la situation.
Il faut qu'il y ait aussi.
Non, je ne pense pas non plus que ça fera de vagues. Ça fera certainement pas de vagues. Et surtout, l'opinion de l'ensemble du peuple vert commence à évoluer un peu vis-à-vis de ça. C'est-à-dire que on est passé, tout le monde a un peu de la peine pour lui, quoi, en voyant les matchs qu'il fait, en disant bon, même pour lui, il sera peut-être mieux maintenant qu'il en joue.
Ouais,
sur 4
pas qu'en plus, il faut pas qu'en plus il se fasse humilier.
Oui, c'est pour ça que je parlais de sortie par le haut. Je pense qu'il faut qu'il trouve une formule où il termine la saison en étant quand même un acteur de ce qui va se passer dans la saison, voilà. mais en jouant beaucoup moins. Et pour qu'il aille gentiment vers une fin de carrière annoncée au mois de mai, et tout le monde applaudira pour service rendu.
Voilà.
C'est très bien comme ça. Mais je pense pas que ça va être un sujet, ça.
Voilà. Bon, à voir. Et puis on entend qu'il s'exprime sur ça, lui aussi, parce que pour l'instant, évidemment, il se fait discret. Merci, Joss. Je rappelle on te retrouve avec tes humeurs et tes opinions sur le site Peuple-Vert, évidemment, et régulièrement dans notre podcast After Saint-Etienne. Salut les gars, et à la semaine
Merci
prochaine pour reparler
Ciao.
Des Verts. Bye bye.
Ciao, à bientôt.
RMC.
After Saint-Etienne.
Le podcast
Gilbert Bribois.